RCF.
La maison commune. Le magazine Nature et Environnement de RCF Isère avec Pierre Blanc.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques jours, s'est tenue dans l'Isère, en plaine de Bièvre, à Saint-Étienne de Saint-Jouard, la nuit de la chauve-souris. L'animation de cette nuit a été confiée à mon invité aujourd'hui. Vous la connaissez déjà peut-être. Je vous mets sur la voie. Elle est chiroptérologue. Bonjour Myrtille Béranger.
Bonjour Pierre.
C'est vous qui nous avez conduit une partie de la nuit il y a quelques jours à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard pour nous faire découvrir le monde de la nuit de la chauve-souris. Vous vous présentez à nos auditeurs, Myrtille Béranger donc.
Bonjour, je suis Myrtille Béranger, je suis une amoureuse de la nature et j'exerce le métier de consultante en environnement dans le domaine des sciences naturalistes et principalement, particulièrement, dans le domaine de la chiroptérologie, donc l'étude des chauves-souris.
Alors, redites-nous pourquoi ce mot ? Il y a du grec derrière.
Alors, effectivement, chiroptérologue, chiroptérologie, ça vient du grec, de chiro, la main, on connaît tous chiropracteur, et bien sûr, ptère, l'aile, et logis, l'étude.
Donc c'est lié à la chauve-souris, nous allons comprendre pourquoi dans un petit moment. Donc Myrtille Béranger, dites-nous-en un petit peu plus là, sur votre passion de la nature.
Alors j'aime observer et transmettre aussi ce qu'on observe, puisque je pense qu'on ne peut préserver que ce qu'on connaît. Et les chauves-souris, c'est un exemple très particulier puisqu'on ne les voit quasiment jamais. Et on a souvent très peur de ce qu'on ne voit jamais, ou ce qui est furtif et qui vit surtout la nuit.
C'était d'ailleurs la raison de c'était la 20e nuit internationale de la chauve-souris, je ne me trompe pas.
Voilà, donc la 20e édition, la nuit de la chauve-souris, c'est un événement national, européen et même peut-être maintenant international, qui a été initié par la Société française de la protection des mammifères, la SFEPM, et aujourd'hui qui se tient dans beaucoup de départements, voire tous les départements, et qui est animé par des bénévoles. L'animation est toujours gratuite et à destination du plus grand public.
Donc vous étiez ce soir-là comme bénévole pour animer cette nuit de la chauve-souris dans le cadre de la LPO, je crois. Expliquez-nous.
Voilà, c'est ça. Donc mon métier m'amène à avoir des compétences et des connaissances, mais j'aime aussi les faire partager. Et je suis bénévole donc au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Isère, la LPO, au sein de cette association. Donc je vais à la fois faire des animations, donner de mon temps pour aussi répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser quand ils ont des chauves-souris chez eux et éventuellement les petits problèmes qu'il peut y avoir dans la cohabitation.
Donc beaucoup d'observations se font la nuit, évidemment, pour la chauve-souris, nous y reviendrons. La LPO, c'est la Ligue Protection des Oiseaux, mais je crois bien que, je l'ai d'ailleurs eu la confirmation, que la chauve-souris n'est pas un oiseau, justement. Alors pourquoi la LPO s'occupe des chauves-souris ?
Alors bien sûr, donc la chauve-souris est bien sûr un mammifère. Elle a des poils et la femelle allait son petit pendant l'été. Et donc la LPO s'occupe aussi des mammifères, mais elle s'occupe maintenant, enfin en Isère et en Rhône-Alpes, alors c'est un peu différent dans les régions, mais aussi des amphibiens et des fois même de la gestion de milieu. Tout ça, c'est un petit peu historique. La LPO, quand la LPO a été créée en début du XXe siècle, c'était avant tout pour protéger les oiseaux. Donc dans l'Ouest, les macareux moines notamment. Et puis, progressivement, cette action de préservation de la faune, donc des oiseaux d'abord, mais s'est étendue progressivement à d'autres groupes. Alors, en Isère, en Rhône-Alpes, maintenant, la LPO s'occupe essentiellement de la faune, mais si on va dans une autre région, on peut avoir d'autres associations qui vont être aussi dans un autre réseau ou rattachées ou partagées avec la LPO.
Alors je sais que vous êtes montagnard, alpiniste, vous avez des passions naturalistes, vous aimez bien vivre la nuit puisqu'il faut vivre la nuit pour les chauves-souris. C'était bien la nuit de la chauve-souris. Alors, vous nous dites que vous voulez intéresser les gens sur ce qui se passe et sur la nature pour mieux la comprendre. C'est ça votre passion en fait?
Oui, tout à fait. Alors déjà, l'étude de ces mammifères me passionne parce que ce sont des animaux qui sont particulièrement adaptés, qui ont donc des adaptations formidables. Donc on parlait de chiroptères, la main et l'aile. La chauve-souris, elle vole avec ses mains. Il faut imaginer que si nous avions les mêmes os et les mêmes mains que les chauves-souris, nos index feraient 2 mètres de long.
D'accord, c'est assez intéressant comme réflexion. Donc les mains, oui, elles volent avec ses mains.
Tout à fait, donc elles volent avec leurs mains et puis elles utilisent un moyen de se repérer dans le noir qui est l'écholocation ou l'écholocalisation. Et donc c'est la capacité en émettant des cris d'envisager l'environnement qui les entoure.
Alors moi j'ai découvert dans cette soirée, entre autres, c'est que c'est bien beau de parler des cris des chauves-souris, mais on les entend pratiquement jamais ou très peu. Et vous nous avez fait découvrir qu'on pouvait les entendre grâce à un appareil. Pouvez-nous décrire cet appareil?
Alors, tout à fait. Donc l'écholocation, c'est pas le propre des chauves-souris, puisqu'on parle souvent des baleines qui font ce genre de choses, mais il y a les humains aussi qui peuvent être amenés à utiliser ce système, notamment les humains aveugles. Mais donc chez les chauves-souris, les sons qui sont émis sont des ultrasons, c'est-à-dire que ce sont des sons ultra aigus pour nous et qui dépassent ce que l'homme peut entendre, la fourchette de fréquence que l'homme peut entendre. C'est pour ça qu'on ne les entend pas. Et bien heureusement, sinon on aurait du mal à dormir avec tous les ultrasons qu'il peut y avoir dans la nature. Et justement, quand on étudie les chauves-souris, on va étudier ces ultrasons en utilisant des petits appareils. Alors aujourd'hui, ils font 500 grammes, mais mes prédécesseurs avaient 25 kilos de matériel par nuit. Et ces petits appareils nous permettent de retranscrire le son, donc pour que ce son soit audible pour nos oreilles. Et ces sons-là, ce sont un peu comme les oiseaux. Chaque espèce va émettre un certain type de signal, un certain son. Et avec ce son, comme un chant d'oiseau, on va pouvoir savoir de quelle espèce il s'agit.
Nous étions, je crois, une 35 ou une 35-40, je crois, à cette soirée. Donc, vous nous avez présenté les chauves-souris, on y reviendra encore une fois. Mais nous sommes allés nous promener. Oui, c'est ça, dans la nuit, vers un étang qui n'était pas loin, on a vu des lampadaires, et là on écoutera aussi quelque chose. Et parmi les auditeurs intéressés, j'ai rencontré un des plus jeunes, il a 10 ans et demi, je lui ai demandé ce qu'il pensait de cette soirée.
Hugo Palmaro.
Et tu as quel âge?
10 ans et demi.
Et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette soirée?
Ben, si j'adore les chauves-souris.
T'adores les chauves-souris?
Ouais.
T'en as déjà vu?
Oui, une fois, on est allé dans une grotte avec ma grand-mère, on en a observé plein.
Et tu les repères bien? Tu sais comment on fait? Mais là, je vois que tu as un petit appareil, ça fait pourquoi là?
C'est pour mesurer la lumière.
C'est pour?
Mesurer la lumière.
Mesurer la lumière, parce qu'on regarde, on voit l'impact des lampadaires ou des éclairages publics sur la progression, la nuit, des chauves-souris.
Ouais.
Et ça t'intéresse beaucoup.
Ouais, j'aime bien moi les chauves-souris.
Tu connais quelques espèces de chauves-souris?
Bah, à part les rhinolophes, les pipistrelles, je connaissais quelques espèces comme ça, mais enfin...
Les rhinolophes?
Oui.
Non, tu en sais déjà pas mal. Donc ça t'intéresse, là?
Ouais, j'aime bien, ouais.
C'est bien, c'est sympa, hein, de faire la nuit comme ça, une petite visite.
Ouais, je trouve ça vraiment passionnant. Enfin, en plus, merci, elle est très bonne, donc, enfin, voilà, j'aime bien.
Et tu penses qu'il faut les protéger, parce que...
Ouais, franchement, j'adore les chauves-souris, je trouve que c'est un animal passionnant et tout.
Et il y a beaucoup de gens qui ont peur. Tu en as entendu parler de ça?
Oui, parce que... En fait, il y avait un c'est pas censé qui disait les animaux qui nous font peur, ils ont mis des chauves-souris dedans, mais je trouve que les légendes qu'on raconte à propos des enfants que les chauves-souris volaient pour aller les manger dans leur nid, je trouve que c'est un peu des histoires exagérées quand même.
Des histoires exagérées. Il en connaît pas mal. Il a donné des noms. Vous pouvez nous les redonner, qu'on les entende bien phonétiquement. Quelques espèces de chauves-souris.
Donc, il a mentionné les rhinolophes.
Rhinolophes.
Donc, ils sont des espèces rares, par contre, et pas vraiment pas très fréquentes, mais par contre, qu'on retrouve bien dans les grottes. C'est pour ça qu'en allant visiter des grottes avec sa grand-mère, comme il nous a expliqué. Il a pu voir des rhinolophes, puisque ce sont les seules chauves-souris qui sont vraiment pendues, suspendues dans le vide et entourées dans leurs ailes. Donc c'est un peu l'archétype de tout ce qu'on connaît sur les légendes qui vont après avec les chauves-souris, les vampires, Dracula, tout ce genre de choses. Et après, les pipistrelles,
oui,
qui sont
de un peu mieux,
toutes
nous.
Petites chauves-souris. Et là, ce sont des chauves-souris très communes qui s'adaptent très bien à l'homme. Et à ce moment-là, elles habitent dans les maisons et elles vont se suffire d'un petit volet, d'un petit trou, d'une toiture, voilà.
Un petit trou de rien, parce que c'est gros comment une pipistrelle ? Ça pèse combien ?
Alors une pipistrelle, ça pèse 5 grammes. Ça correspond un peu à 2 morceaux de sucre à peu près. Et ça a la taille à peu près de votre pouce.
Ah, c'est si petit.
Voilà,
ça
fait. Ouais. Et en envergure, par contre, ça fait une quinzaine de centimètres d'envergure. Donc, quand elles volent la nuit, on a toujours l'impression qu'elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'elles ne sont en réalité.
2 morceaux de sucre. Tout petit, il faut un tout petit trou, en fait, dans une charpente ou dans une toiture.
Voilà, si elles sont toutes seules, elles peuvent vraiment se cacher dans rien du tout. J'ai même des collègues qui ont trouvé des pipistrelles cachées dans des boîtes de conserve qui sont pour protéger les piquets des clôtures qu'on trouve de temps en temps. Donc elles utilisent vraiment des gîtes. Donc le gîte, c'est l'endroit où elles vont dormir la nuit, le jour, pardon. Très éclectique. On a vraiment des choses vraiment très particulières.
Donc c'est un mammifère, et un mammifère qui est très répandu. Vous pouvez nous en dire plus, là.
Alors,
retenu un cinquième des mammifères sont des chauves-souris, c'est vrai ?
Tout à fait. Donc dans le monde, il y a à peu près 1200 espèces de chauves-souris connu, puisqu'on en découvre tous les ans encore. Et c'est un groupe d'animaux où il y a énormément de diversité. Alors en France, en Europe, on a essentiellement des chauves-souris qui se nourrissent d'insectes. C'est pour ça qu'ils sont utiles pour lutter contre les invasions de sauterelles, d'insectes qui pourraient nous nuire, comme les moustiques par exemple, de temps en temps. Et puis sinon, il y en a qui ont des régimes alimentaires très variés. Alors souvent, on en voit des très grosses dans le Pacifique. Ce sont des roussettes qui peuvent faire jusqu'à 1,50 m d'envergure. Et celles-ci sont frugivores plutôt, donc végétariennes. Après, on en a qui vont manger des petits poissons, on en a qui peuvent manger des reptiles, et on en a qui se nourrissent effectivement de sang.
D'accord, j'ai retenu ça. Un cinquième des chauves-souris, un cinquième des mammifères. Et il y a donc beaucoup d'espèces, vous les avez dites, il y en a
1200 à peu près.
1200. Les poids et les envergures varient beaucoup selon les espèces, si j'ai bien compris.
Voilà, donc la plus petite au monde, elle a la taille d'un bourdon, à peu près. Elle fait son corps fait à peu près 2 cm. Et la plus grande, elle fait 1,60 m d'envergure.
1,60 m d'envergure, ça représente quelque chose. Avec les mains, pour voler, ça fait
c'est impressionnant.
Elles vivent essentiellement la nuit, on a bien compris. J'ai appris aussi qu'elles n'étaient pas aveugles, contrairement à ce qu'on dit parfois. Elles ne sont pas aveugles, les chauves-souris.
Bien sûr que non. Par contre, comme nous, la nuit, avec nos yeux, on a vraiment du mal à se déplacer. Et elles ont mis en place donc ce système d'écholocation pour pouvoir se déplacer. Mais s'il fait jour ou si elles se trouvent à proximité de lampadaires, elles vont aussi utiliser leur vue pour voir.
D'accord, donc l'écholocation, c'est un système de sonar.
C'est exactement le sonar.
Qui permet de repérer et de repérer sa proie.
Voilà, alors ça leur sert pour se repérer, pour se déplacer, alors pour se rendre de leur gîte, donc l'endroit où elles dorment la journée, au terrain de chasse. Donc elles vont chasser les insectes. Et puis après, en plein vol, elles vont repérer ces insectes grâce à ces cris. Voilà.
Et une espèce qui est... Enfin, c'est une espèce... Toutes les espèces sont protégées.
Alors, en France, toutes les espèces sont protégées par la loi française. Et par la loi européenne, il y en a une douzaine, qui est inscrite sur les listes européennes.
Donc, la loi française et la réglementation européenne protègent toutes les chauves-souris.
Tout à fait. Donc, il est interdit de leur porter... enfin de les embêter, de les mutiler, de les tuer, et aussi leur gîte, donc l'endroit où elles peuvent se tenir ou les endroits dont elles ont besoin dans leur survie, dans leur cycle biologique, sont importants et donc sont protégés.
Donc pour voir les chauves-souris, il faut sortir la nuit, n'est-ce pas? Et en plus, il ne faut pas forcément lever la tête très haut. Encore que quand on la lève très haut, on voit parfois des étoiles filantes, comme nous le chante ce groupe des Cowboys Fringants, un groupe québécois.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des petits culs s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine.
La 20e nuit internationale de la chauve-souris a eu lieu en Isère, en plaine de Bièvre, à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, avec le soutien de la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Et c'est mon invité aujourd'hui, Myrtille Béranger, qui en a assuré l'animation. Nous étions donc une bonne trentaine. Nous avons quitté la salle de conférence où vous nous avez parlé des chauves-souris, comme vous venez de le faire dans l'émission. Et nous nous sommes rendus en direction d'un étang. Pour aller vers cet étang, il a fallu traverser Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. Et alors moi, j'ai découvert qu'on pouvait voir des chauves-souris en pleine ville. C'est exact?
Oui, tout à fait. Donc le parcours que nous avons fait est la traversée du village. Et en traversant le village, on se rend compte que donc, l'aménagement de ce village, il y a des lampadaires. Et les lampadaires attirent énormément d'insectes. Et ces insectes, vu que ce sont le régime alimentaire des chauves-souris que nous avons chez nous, c'est aussi le garde-manger donc, de ces chauves-souris. Alors, malheureusement, pas de toutes les chauves-souris, parce qu'il y a des chauves-souris qui vont s'adapter à la lumière, et d'autres, par contre, qui sont très lucifuges, donc qui craignent la lumière, qui la fuient. Et ces chauves-souris-là, par contre, elles vont être exclues de cette abondance de nourriture.
Je connaissais Lucifer, mais je ne connaissais pas lucifuge, c'est joli pour les chauves-souris. À propos de, justement, de ces lampadaires, ces lumières en ville, d'ailleurs, ça veut dire qu'il m'a semblé un jour voir une ou deux chauves-souris en plein Grenoble. C'est possible aussi?
Alors oui, tout à fait. Donc, comme on parlait que les chauves-souris, il y a énormément de diversité, il y a aussi des chauves-souris partout. Partout dans le monde, sauf au pôle, parce que ce sont des animaux qui ont quand même besoin d'une certaine chaleur. Et elles s'adaptent, donc dans les 35 espèces présentes en France, on en a 4-5 qui arrivent bien à s'adapter au milieu urbain, on va dire. Et on peut entendre des chauves-souris en plein centre de Grenoble, sur la place Grenette. Donc ça, c'est, on les entend, on les voit, on peut les voir aussi sous les lampadaires. Et c'est vrai que quand on fait une animation, il suffit de pas aller très loin. On n'a pas besoin d'aller dans des milieux extraordinaires pour voir ces petites pipistrelles qui chassent sous les lampadaires. Après, c'est pour ça que nous sommes allés vers un étang, donc un refuge LPO que la mairie entretient pour essayer de préserver la biodiversité dans sa commune. Et là, on a plus de lampadaires et on peut espérer observer, entendre d'autres types de chauves-souris.
D'ailleurs, on va suivre quelques secondes le groupe qui déambule sous les lampadaires en sortant de Saint-Étienne-Saint-Jouard, qui est un refuge donc LPO, comme vous avez dit, et en direction de l'étang. On va suivre ce groupe.
On voit une chauve-souris là-bas qui tourne. Vous voyez les trois lampadaires là-bas? Alors il y en a une qui a traversé.
Ah oui, je l'ai vu, ouais.
Voilà, c'est ça.
Regarde bien sur les deux qui sont sur la maison de là-bas.
On va essayer de voir.
On l'a vu passer sous un lampadaire.
Et elle émet des sons, donc des cris sociaux. C'est les sons dont je vous ai parlé qui ne sont pas des ultrasons, mais qui sont du langage.
Les cris sociaux, dites-nous là, expliquez-nous les cris sociaux.
Donc on a parlé des ultrasons, des cris qu'elles utilisent pour se déplacer. Donc c'est ceux qu'on n'entend pas. Par contre, il y a des sons aussi qu'elles émettent et qui sont entre guillemets du langage. Alors aujourd'hui, on ne sait pas les interpréter, bien sûr, on ne parle pas le chauve-souris couramment, mais on arrive à reconnaître les espèces parce qu'elles émettent certains cris. Et ces cris sociaux, ce sont donc on les entend à l'oreille humaine. Et parce qu'ils sont relativement, ils sont dans la fourchette de ce que l'oreille humaine entend, et ça fait des petits tics, tics très aigus. Souvent, on peut penser que c'est un criquet ou une sauterelle, mais non, ce sont bien des chauves-souris. Une fois qu'on a entendu ce son, vous verrez que les chauves-souris, il y en a partout.
Il y en a partout. Donc tic, ça veut dire pendant que tu es en bas, prends le pain et reviens, ou fais attention, les gosses vont sortir de l'école, il faut être à l'heure. C'est un peu ça, c'est
Alors,
ça.
Alors c'est souvent, donc c'est une manifestation sociale, donc c'est souvent quand il y a plusieurs individus ensemble. Donc là, sous les lampadaires, elles sont souvent plus nombreuses. Il y en a deux ou trois qui chassent ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire ça, c'est mon moustique ou quelque chose comme ça? Probablement. Et après, il y a une autre circonstance, c'est à la période des amours à l'automne, où effectivement, il y a des mâles. Les mâles vont émettre ces sons pour attirer des femelles, bien que le phénomène soit encore pas très bien connu. On ne sait pas s'il y a que les mâles qui chantent ou... Voilà.
Et vous nous avez expliqué que ça dépend aussi des lampadaires, de la lumière utilisée, la couleur de la lumière, le type de lumière, l'orientation de la lumière.
Alors oui, on parlait justement là, Hugo, je lui avais mis un luxmètre dans les mains, donc c'est un appareil pour mesurer l'intensité lumineuse, et on est allé mesurer un petit peu les lampadaires qu'on a croisés sur notre route. Il faut savoir que aujourd'hui, donc, les choses évoluent énormément. Déjà, on adapte les lampadaires. Avant, c'était des objets un peu esthétiques dans un village. Maintenant, on essaie de les réduire un petit peu plus à leur utilité par rapport à l'éclairage dont on a besoin au niveau du sol. Donc, on essaye. Il y a des lampadaires qui vont être plus utile et en tout cas plus efficace pour éclairer que d'autres. Par exemple, on voit des fois des globes lumineux. Alors ça, c'est à proscrire parce qu'effectivement, ils éclairent le ciel et ils n'éclairent pas le sol. Et cet éclairage qui va vers le ciel, c'est une pollution lumineuse qui va influencer les animaux qui vivent, mais aussi les humains. Parce que la nuit n'existe quasiment plus dans certains endroits. Et le fait qu'il y ait un jour, entre guillemets, permanent, ça modifie nos cycles, ça modifie le cycle des animaux.
C'est peut-être un petit peu valable pour l'homme aussi, qui ne sait plus vivre dans le noir, qui a peur du noir, c'est connu. Hein.
Alors, l'homme étant pas un animal nocturne, c'est vrai que normalement, avant on était lié au rythme du soleil. Aujourd'hui, on a ces lampadaires. Alors, heureusement, ça nous permet, en hiver, de ne pas aller se coucher à 5h30, ce qui est quand même agréable. Par contre, effectivement, ça a un impact. Et il faut savoir que quand on éclaire une zone, alors ça peut être parce que c'est une zone dangereuse, ça peut être parce que c'est une zone où on a besoin de faire passer des piétons, et il faut la penser un petit peu en essayant de concilier aussi le respect des autres êtres vivants qui y vivent.
D'ailleurs, ça nous fait une transition avec votre amour des chauves-souris et le bénévolat que vous joignez à tout ça, avec votre métier qui est vous avez une entreprise Diagnostic Nature. Vous en parlez là dans les aménagements, les projets d'aménagement des mairies, des particuliers, des questions de lumière notamment.
Oui, tout à fait. Alors, quand on prévoit un aménagement, donc moi, mon entreprise, c'est un bureau d'études. Je vais intervenir dans des projets d'aménagement, que ce soit des zones d'activité, des projets routiers, des choses comme ça. Et dans les zones d'activité, par exemple, on prévoit dans les projets toujours d'avoir, de plus en plus en tout cas, de trouver un éclairage respectueux avec des choses qui peuvent se mettre en place. Alors aujourd'hui, ça peut être de la détection de mouvement pour que les appareils s'allument quand les gens passent, quand on en a besoin. Ça peut être essayer de bien sensibiliser aussi les gens qui vont avoir leurs entreprises pour éteindre les lumières en lien avec les lois et les décrets qui viennent de passer. Donc à partir de 11h, il y a aussi beaucoup de communes aujourd'hui qui commencent à essayer d'éteindre la nuit après 11h et de rallumer vers 6h pour justement éviter cette pollution lumineuse à des heures où personne ne s'en sert, et aussi en même temps faire un petit peu des économies.
L'avenir de la planète, vers une conclusion, elle se joue dans cette cohabitation entre l'homme et la nature, mais encore faut-il bien connaître la nature dans laquelle nous sommes. Ça peut être une conclusion quelque part, n'est-ce pas?
Oui, l'étude finalement du monde vivant qui nous entoure, elle est importante justement pour comprendre comment les choses fonctionnent et puis s'adapter. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a parlé de pollution lumineuse. On s'aperçoit que si les chauves-souris ou les animaux réagissent différemment, ben nous aussi, on a besoin de limiter, de s'organiser pour que notre économie, nos développements soient respectueux de tout ça.
Donc le respect de la nature et de notre environnement. Je viens de remettre à Myrtille Béranger, notre invitée sur la nuit des chauves-souris, le fameux proverbe du jour. Elle le découvre en même temps que nous, puisqu'elle va nous le lire en direct et nous faire sa conclusion, à l'aide ou non de ce proverbe ou de cette maxime.
Alors, lorsque tu es pressé, fais un détour.
Lorsque tu es pressé, fais un détour, c'est un proverbe berbère. On vous laisse quelques secondes de réflexion pour votre conclusion, Myrtille. Êtes-vous souvent pressé?
Ah oui, comme beaucoup, je pense. Et c'est vrai que ce proverbe est intéressant parce que ça met en opposition presser, aller toujours vite et faire un détour, justement ralentir. Et je pense que c'est très très important aujourd'hui, surtout dans les modes de vie occidentaux que nous avons. C'est ce détour, c'est un peu prendre du recul, s'éloigner un peu et se rendre compte que finalement, peut-être, que l'on se sente pressé ou que l'on se sente sous pression même, en prenant un peu d'espace, un peu de recul, eh ben, on peut vivre les choses différemment et peut-être plus sereinement.
Merci Myrtille Béranger. À propos de la nuit de la chauve-souris, je pense qu'on aura une autre l'année prochaine, c'est toutes les années.
Voilà, donc ouais. La nuit européenne de la chauve-souris, c'est tous les ans et c'est toujours le dernier week-end d'août, avec plus ou moins 15 jours qui dépassent sur le mois de septembre. Donc dans toutes les régions, dans tous les départements, il suffit d'aller sur le site internet lanuitdelachauvesouris.com et vous trouverez toutes les informations sur les zones proches de chez vous où vous avez des animations.
Merci beaucoup, Myrtille Béranger.
Merci à vous.
Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner tout un, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante.